au chapitre 32, je vais partager une partie de ce que j'ai partagé au plus à Bordeaux, comme cela, en même temps, ça vous donnera un petit peu une idée de ce que nous avons vécu ensemble. Et ce sont des choses, de toute façon, qui sont sur le moteur depuis bien longtemps, et qui sont, en termes de livres en général. Exode, chapitre 32, on verra l'œuvre d'or. Alors, le sujet que j'avais abordé, c'était un peu l'humanisme et Dieu. L'humanisme et Dieu. Donc, l'humanisme, vous savez ce que c'est recentrer sur l'homme, c'est mettre les choses tournent autour de l'homme, au service de l'homme. C'est une réaction du Moyen-Âge. Hein, au Moyen-Âge, l'Église catholique, faisait que les gens faisaient beaucoup de pénitence et l'homme était vraiment écrasé, humilié. Alors il y a une réaction pour remettre l'homme dans une place un peu meilleure. Et quelque part, il peut exister un culte empreint de cet esprit humaniste. C'est ce qu'on verra dans cet épisode du Vaudor, un culte qui doit plaire à l'homme. Un culte qui doit correspondre aux attentes des hommes. Mais ce n'est plus un culte pour Dieu. Le danger pour l'évangélisme, c'est aujourd'hui d'adapter l'Église et ses pratiques à ce qui se fait actuellement et à ce que les gens aiment et réclament. Mais il ne faudrait pas que l'Évangile devienne un produit de consommation et les églises des supermarchés, où on choisit son supermarché pour y trouver ce qui nous convient, ce qui nous plaît. Les chants, la prédication, l'organisation de l'église peut parfois être axée sur l'homme. Quelqu'un a fait une étude sur les différents gemmes, recueils, gemmes 1, 2, 3, 4. Et dans cet article, ce qui était intéressant, c'est qu'il montrait que plus les décennies passent, plus les chants sont centrés sur l'homme, ce qu'on ressent, ce qui nous concerne nous, et de moins en moins sur Dieu. Alors, on va lire dans Exode 32, verset 1er, même la prédication, parfois la prédication peut être beaucoup teintée de psychologie, de répondre aux besoins de l'homme. Alors, la psychologie, la Bible en faisait avant qu'elle existe. Avant, on appelait ça la cure d'âme. Les pasteurs ont toujours fait, entre guillemets, de la psychologie. Bien avant que les psychologues existent. Psychologie, ça vient de psyché. Psyché, ça veut dire âme. En grec, âme. Logos, étude. Psychologie, c'est l'étude de l'âme, de l'homme. Donc, en réalité, la Bible, ça fait bien longtemps qu'elle parle de l'âme ou de l'homme. Mais la psychologie moderne, c'est autre chose que la psychologie de la Bible. Si on peut parler comme cela. Mais un jour, peut-être, on pourra l'étude sur ça. Exode, chapitre 32, verset 1er. Exode 32, verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit : Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et il dit : Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria : Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Amen. Amen. Alors, tout cela a lieu en l'absence de Moïse, et ça, c'est important. En l'absence de Moïse, Il est resté que 40 jours. Il n'a pas fallu longtemps pour que le peuple change de culte. 40 jours, l'absence de Moïse. Comment ne pas voir dans ce passage la situation actuelle de l'Église depuis que le Seigneur est parti? Le Seigneur est absent. Il n'est plus là. Et en attente qu'il revienne, l'Église sera tentée de faire comme Israël, son culte, sa religion, son adoration, qui en fait n'en est pas une, c'est de l'idolâtrie. Il y a deux choses bien différentes, l'idolâtrie et l'adoration. C'est un culte réclamé par l'homme. Mais le peuple, des millions, se rassemble et encercle Aaron. Quelle pression pour cet homme de Dieu. Hein, le verset premier le dit bien, il s'assembla autour d'Aaron. On l'imagine seul au milieu d'une foule du peuple de Dieu, pourtant, mais qui réclame un autre culte. Le faux culte, c'est un culte qui est réclamé de l'homme. C'est un culte que nous voulons nous. Mais ce n'est pas le Dieu qui est révélé. C'est un Dieu fabriqué. Fabriqué par la main de l'homme. En or, certes. Mais c'est un Dieu fabriqué. Ce n'est pas un Dieu révélé. Nous, nous pouvons nous fabriquer un Dieu. Nous pouvons nous fabriquer un culte. Mais même si on y met de l'or, même si on y fait de notre mieux, mais nous ne pourrons jamais par nous-mêmes, accéder à ce que Dieu seul peut révéler de lui. Le vrai culte repose sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu révèle, et non pas sur ce que nous, nous réclamons, ou ce que nous, nous voulons. Quelle pression sur Aaron, et je pense qu'actuellement, il y a une grande pression qui sont mises sur les serviteurs de Dieu et sur les églises, pour que tout ce qui se fait autour de nous puisse nous gagner, comme Israël, qui était souvent seul au milieu des nations et qui n'a supporté pas sa différence et qui au final a imité les nations voisines. L'idolâtrie est une caricature de Dieu. Ces veaux d'or, ce n'était pas Dieu. C'est une caricature de Dieu. Tout ce que nous, nous allons essayer de fabriquer, ça ne sera qu'une caricature de Dieu. Quand on connaît mal Dieu, on le caricature. Pour vraiment adorer Dieu, il faut connaître sa parole pour connaître le vrai Dieu. Ce veau d'or n'est pas une invention. C'est une copie d'un dieu d'Égypte que l'on appelait à l'époque le bœuf Api. Le bœuf Api, ça s'appelait comme ça. Pas un nom formidable, ça s'appelait comme ça. Le bœuf Api. En fait, dans le désert, assez rapidement, Israël a recopié un dieu qui existait en Égypte. C'est donc un culte mondain, un culte qui ressemble au monde, un culte égyptien. Ce qui fait que l'Église est l'Église, c'est qu'elle doit et rester différente du monde. Si nous ressemblons au monde, non seulement nous ne gagnerons pas le monde, mais nous perdrons notre âme. Ces dernières décennies, l'idée est plutôt de dire il faut que l'on ressemble au monde pour gagner le monde. Il faut faire des choses dans l'Église pour que les jeunes soient contents. Et on gagnera les jeunes. Je ne crois pas qu'on va gagner les jeunes. Je crois qu'on va perdre ce que Dieu nous a révélé. Quel est le but de l'Église? C'est de gagner du monde ou c'est d'honorer Dieu? C'est deux perspectives complètement différentes. Le culte réclamé par l'homme, le culte fait pour l'homme ou le culte révélé par Dieu et le culte pratiqué pour Dieu. Et la tentation est grande de préférer parfois le résultat, si résultat il y a en réalité, de la fidélité. C'est une idolâtrie très subtile parce que voilà ce que Aaron fait une tentative de récupération. Il récupère Il faut quand même, c'est un réveil. C'est un bon réveil. Vous voyez, tout le monde enlève ses boucles d'oreilles. C'est un réveil. Franchement, vous direz, mais quel réveil! Tout Israël se dépouille de ses ornements, donne tout pour leur Dieu. Mais quel réveil formidable! C'est le réveil du veau d'or. On peut avoir des réveils dans certaines églises, mais sur quelle base? Pour faire quoi? Pour adorer qui? Une idolâtrie subtile, parce que c'est le veau d'or qui copie le bœuf à pic, mais en même temps, Aaron dit, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. L'Éternel. Alors, c'est qui ce Dieu? C'est le veau d'or ou c'est l'Éternel? C'est l'Éternel par le veau d'or. C'est là qu'est toute la subtilité. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire, Jésus-Christ.
Amen.
Il ne faut pas seulement dire croire en Dieu, il faut passer par le bon intermédiaire. Et tous ceux qui croient en Dieu sans croire en Jésus-Christ sont dans l'idolâtrie du veau d'or. Excusez-moi. Il y a une religion monothéiste, l'islam, qui croit en un seul Dieu. Elle a raison. Mais ne passe pas par l'intermédiaire de Jésus-Christ. C'est une idolâtrie. C'est une fausse religion. Mais on pourrait voir les choses à l'extérieur. Mais je crois aussi que pour nous, le danger, c'est que l'on peut, nous aussi, parfois, en tant qu'évangélique, idolâtrer Dieu plutôt que de l'adorer. Comment cela? On peut idolâtrer le vrai Dieu en ne pratiquant pas le culte qui lui plaît et qui le révèle. Ça fait réfléchir. Nous voulons adorer Dieu et non pas l'idolâtrer. C'est le même nom, l'Éternel, c'est le même nom. Le veau d'or porte le nom de l'Éternel, c'est le même nom. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Et parfois, on parle des mêmes noms, mais derrière, on n'y voit pas toujours les mêmes choses. Même dans l'Église, il y a une différence. C'est un culte festif. Vous avez remarqué, un culte festif, divertissant. Ils se levèrent et se divertirent. C'est pour divertir. J'ai entendu une expression la semaine dernière de la part d'un frère qui parlait, bon, en le dénonçant, de la pop louange. J'ai bien aimé cette expression, la pop louange. Le divertissement dans la maison de Dieu. Mais ensuite, au verset 19, il est question de danse. Et au verset 25, si vous pouvez le vérifier en même temps, je vous le dis, il est question de désordre. 19, des danses. 25, désordre. Alors, on commence par un réveil. Il sort un magnifique Dieu qui s'appelle l'Éternel. Alors on va dire, mais qui est-ce qui va être contre après tout? Ils adorent Dieu, ils croient en Jésus, c'est les mêmes noms. Mais au final, on se rend compte que c'est pour se divertir, pour danser, et in fine, pour se livrer au désordre. Alors vous savez, je me dis ceci, bien aimé, déjà en essayant d'être fidèle à Dieu, pour que l'Église respecte sa sainteté, on a déjà eu des difficultés dans nos assemblées, des chutes, des rétrogrades, c'est déjà pas évident. Mais si en plus, maintenant, on commence à baisser la barre et à, dans la maison de Dieu, faire plaisir aux gens, ça va être une catastrophe. Vous avez vu jusqu'où ça a mené, le désordre. Et à la fin même, quand Moïse redescend, il y a des morts, malheureusement. Il y a des morts. Jésus revient bientôt. Amen. Il n'est pas là. Il est absent, comme Moïse. Et ce qui est frappant, c'est quand il dit, cet homme, nous savons pas ce qu'il est devenu. Vous savez, quand on perd de vue que Jésus revient, c'est là qu'on est capable, alors, de dérailler. Mais quand il reviendra, il jugera son peuple.
et nous voudrions être nous prêts pour son retour. Amen. Je pense qu'avant que Jésus vienne, dans les signes de la fin des temps, j'en ai évoqué plusieurs tout à l'heure, il y a la séduction. Et il nous faut rester près du Seigneur. Les séductions ont toujours été très subtiles. Ici, vous voyez, le mot d'or s'appelle l'Éternel. C'est très subtil. Aaron est d'accord, c'est officialisé. Il y a un grand serviteur de Dieu qui est d'accord avec ça. On ne s'imagine pas, mais très compliqué quand même. Vous savez, l'adversaire sera toujours très rusé pour s'infiltrer dans l'œuvre de Dieu. Parce que lui sait très bien qu'à la fin, c'est le peuple de Dieu qui en souffrira. Le Seigneur vient bientôt. En son attente, nous voulons rester fidèles. Pratiquer un culte qui lui soit agréable. Amen. Alors vous êtes chrétien. Je suis chrétien. Mais nous ne sommes pas chrétiens pour nous. Nous ne voulons pas une église pour nous. Nous voulons une église et nous voulons être chrétiens pour Dieu. Pour qu'il soit honoré, glorifié. Nous soyons conduits par lui. Amen. En conclusion, ce qui est étonnant, c'est que dès le début de l'histoire du culte, parce qu'on est au début de l'histoire du culte, hein, Israël est sorti d'Égypte. Il est dans le chemin du désert. Donc c'est justement, il va aller au désert pour avoir le Lévitique, la révélation du culte, de comment adorer Dieu. Donc c'est au tout début du culte. Et ça dévie déjà très vite. Alors on ne doit pas être étonné que des fois, dans l'Église et dans l'histoire de l'Église, il y a une grosse déviation. Parce que dans l'Écriture, dès le départ du culte, il y a déjà eu le vaudor. Ce n'est pas nouveau, ça sera toujours comme cela. Et puis, je vous dirais qu'un faux culte, c'est un culte faux. Quand on fait un culte pour faire plaisir aux gens, après les prières, les chants, le rassemblement, ça sonne faux, ça sonne creux. Il n'y a pas l'onction de l'esprit. Et c'est pour cela que nous voudrions avoir un culte qui soit agréable. Donc la rapidité est étonnante. Mais je termine avec Hébreux 12. Vous voulez bien lire avec moi, on terminera avec ce passage. Hébreux 12. Verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Voilà, un culte qui lui soit agréable. C'est notre souhait, amen, d'être une église qui lui soit agréable. Alors avec piété, qu'est-ce que ça veut dire avec piété? Ben, ça veut dire que le vrai culte, c'est en fait tous les jours. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Offrir à Dieu un culte qui soit agréable, vous savez, dans le domaine du culte, on pense trop que c'est le dimanche matin. Mais le culte, c'est pas le dimanche matin. D'ailleurs, je pense qu'au Portugal, je sais du côté de mon épouse, toutes les réunions sont appelées culte de prière, culte d'évangélisation, parce qu'en fait, toutes les réunions sont un culte que l'on adresse à Dieu. On a un peu tort de tout focaliser sur le culte du dimanche matin. Le culte, c'est pas le dimanche matin. Le culte, c'est tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie, nous sommes des adorateurs et notre vie, c'est lui offrir un culte. Vous comprenez? Quand c'est écrit de offrir à Dieu un culte avec piété, c'est-à-dire que le vrai culte, c'est pas on vient au culte dimanche matin et toute la semaine on s'en détache, on l'oublie, mais le culte avec piété, c'est le dimanche matin et tous les jours en s'attachant au Seigneur. C'est ça un culte avec piété. Puis avec crainte, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne se font pas dans la maison de Dieu, qui ne se disent pas dans la maison de Dieu. Il y a un culte qui doit respecter sa sainteté. Vous vous rappelez, cette traduction de second 21, je pense que vous l'avez vu, il me semble, que ton nom soit sanctifié, second 21, rempart, que la sainteté de ton nom soit respectée. Et c'est la prière modèle pour les chrétiens, parce qu'ils pourraient penser que la sainteté, c'est plutôt l'Ancien Testament. Mais Jésus, à qui on a demandé comment nous, chrétiens, il faut qu'on prie, Jésus a répondu, premièrement, la première des choses, que la sainteté de ton nom soit respectée. Amen. Faire réfléchir à ça. La sainteté de ton nom soit respectée. Voilà les. Je ne vais pas partager que cela, comme on a vu avec la.